Africa.
Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Débat ce soir sur les chances de réussite des deux gouverneurs militaires nommés dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri en RDC. Mais pour l'instant, direction le Sénégal, retrouver notre invité décryptage.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Professeur Mohamadou Goudabop, bonjour.
Bonjour, madame.
Vous êtes constitutionnaliste, enseignant-chercheur en droit public à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. Des experts africains arrivés au Sénégal début février pour l'audit du fichier électoral ont conclu qu'il est cohérent et fiable. La polémique et le débat sont-ils désormais clos sur le fichier électoral régulièrement décrié par l'opposition sénégalaise ?
Alors, du point de vue technique peut-être, mais du point de vue politique, je ne le pense pas. Pour la bonne et simple raison qu'en réalité, les hommes politiques ne parlent pas le même langage. Là où, par exemple, le pouvoir dit clairement que le fichier est quasiment fiable, l'opposition est toujours, n'est-ce pas, braquée pour dénoncer un certain nombre d'anomalies dans le fichier électoral. Les experts ont fait leur travail. Il revient aux hommes politiques maintenant de trouver un consensus là-dessus parce que l'identité constitutionnelle sénégalaise repose sur une démocratie de consensus.
Les experts affirment qu'il y a zéro cas de doublon. Parmi les 6 683 000 inscrits, ils parlent aussi de mineurs qui n'ont pas été recensés. Et tous les électeurs, d'après ces mêmes experts, ont été repartis une seule fois dans la localité des bureaux de vote du Sénégal. Est-ce que ces conclusions vous paraissent conformes à la réalité ?
Ça ne me paraît pas conforme à la réalité, d'autant plus qu'il y a le Conseil constitutionnel qui a statué sur les parrainages. Et des candidats à la candidature ont vu quand même donc leur candidature rejetée par le Conseil constitutionnel sur la base de ces doublons. Ils ont été recalés parce que tout simplement, en réalité, le Conseil constitutionnel a estimé qu'il y avait des doublons et ces doublons maintenant devaient permettre tout simplement de rejeter les parrainages parce qu'il n'y avait pas d'alternative. Donc aujourd'hui, je vous dis et je me demande, je me pose des questions. Si par exemple les experts ont omis ce cas de figure, comment se fait-il qu'on ait un fichier de 6 millions donc, d'électeurs
683 000 inscrits.
Effectivement, et qu'il n'y ait pas la possibilité quand même de retrouver ces doublons. Soit au Sénégal, il y a des cartes d'identité soit qui sont falsifiées, ou bien en réalité, il y a des électeurs clandestins. Moi, j'aimerais bien savoir sur quoi le Conseil constitutionnel s'était fondé alors pour rejeter les parrainages de ces candidats à la candidature.
Une coalition de l'opposition, le FRN, a dit ne pas croire aux conclusions des experts électoraux. Vous êtes d'accord avec
cette coalition ?
En tout cas,
c'est une opinion qui est proche de la réalité. La réalité est que l'élection présidentielle s'est déroulée avec des anomalies manifestes au niveau du traitement des parrainages des candidats à la candidature. J'en avais parlé dans les médias. Les experts, je les respecte quand même. Je respecte quand même leur qualité d'expert. Mais moi qui suis donc ici au Sénégal, qui vis cette réalité, mais nous constatons que jusqu'à présent, il y a eu quand même des défaillances et qui n'ont pas été soulevées par ces experts-là. Et du coup, je me dis que tout simplement, en réalité, comme tout travail, il y a des limites.
Les experts ont néanmoins fait une trentaine de recommandations. Est-ce que vous pensez que ces recommandations seront prises en compte ?
Le président de la République avait dit clairement que lui-même, il ne changerait d'une virgule, n'est-ce pas, de ce qui serait arrêté. Maintenant, les recommandations sont des recommandations fortes. D'abord, ils ont demandé à ce qu'on puisse revoir la carte électorale, aussi qu'il y ait l'amnistie, par exemple, pour certains hommes politiques, notamment Karim Wade et Khalifa Ababakar Sall, parce que les articles L31 et L32 du code électoral ne sont pas conformes à la Constitution et aux standards internationaux, que en réalité, le parrainage soit revu dans ses modalités et qu'il y ait des parrainages alternatifs, notamment en recourant, n'est-ce pas, à des élus, notamment qu'ils soient conseillers municipaux locaux ou bien qu'ils soient des députés, pour pouvoir tout simplement mettre en conformité le parrainage sénégalais avec nos textes conventionnels, parce qu'en réalité, le Sénégal vient d'être sanctionné d'ailleurs. En fait, ce qui donne raison aux experts quand même, donc par la Cour de justice de la CEDEAO qui lui demande de supprimer le parrainage dans ses modalités d'application. Il y a aussi donc des recommandations par rapport au stock mort, parce que quand même, les experts ont vu que quand même, dans certains départements, le nombre d'électeurs était supérieur à ce qui devait exister. Ils ont demandé à ce que le Sénat ait plus de prérogatives, notamment que la Sénat puisse même participer, n'est-ce pas, dans le contrôle des parrainages, entre autres. Voilà en gros, de façon ramassée, ce qu'ils ont demandé.
Ce n'est pas pour demain la fin de la bataille sur le fichier électoral, soutient-on du côté de l'opposition, alors que du côté de la majorité, on estime que cet outil est fiable, évidemment en parlant du fichier électoral. Pour vous, quelle doit être la prochaine étape dans ces conditions ?
Il faut quand même que l'opposition aussi puisse se réarmer, parce que l'opposition parfois ne fait pas son travail sur cette question-là. Parce qu'en Afrique, on ne dit pas parfois la vérité aux oppositions. Parce que l'opposition parle seulement du fichier électoral, mais ne parle pas des listes électorales. Et je dis tout simplement qu'en réalité, le fichier doit correspondre aux listes électorales. Les opposants et l'opposition ont la possibilité de contrôler les listes électorales. Et moi, je pense que la prochaine étape, c'est tout simplement d'aller vers les listes électorales pour les contrôler, pour demander à ce que cette conformité soit réelle. Mais l'autre chose est qu'en réalité, parfois, il y a des combats que l'opposition perd, parce qu'en réalité, c'est l'opposition qui donne le bâton pour se faire battre. Parce que l'opposition, parfois, demande des
stratégies.
Mais effectivement, ce ne sont pas des stratégies opérationnelles. Parce qu'en réalité, l'opposition, parfois, est dans la surenchère, ou bien parfois, l'opposition pratique la politique de la chaise vide. Et ça, ce n'est pas bien, ce n'est pas bon, n'est-ce pas, pour la survie de la démocratie ou bien pour une démocratie de consensus comme la nôtre.
Pourquoi y a-t-il autant de suspicions sur le fichier électoral ? Ce n'est pas la première fois que l'on procède à son audit. Il y en a eu en 2010 et en 2018.
En réalité, on peut aller dans la psychologie des hommes politiques africains et même sénégalais, donc en particulier. C'est qu'en réalité, ils disent tous la même chose. Avant moi, c'est mauvais. Après moi, ça le sera beaucoup plus. Mais pendant que j'y suis, on n'y touche pas.
Professeur Mouhamadou Gouda Bouop, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie, madame.
Constitutionnaliste, enseignant-chercheur en droit public à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour le grand rendez-vous. Et aujourd'hui, nous parlons de la RDC, de hauts gradés dont le passé rebelle suscite chez certains Congolais inquiétudes et doutes ont été nommés gouverneurs militaires dans le nord, du Nord Kivu et de l'Ituri. Malgré ces critiques, faut-il leur faire confiance et seront-ils à la hauteur des attentes des populations de l'Est de la RDC ? Nous en débattons ce soir avec quatre invités. D'abord, Patrick Muyaya Katembwe, ministre congolais de la communication et des médias. Vous êtes également, M. Katembwe, porte-parole du gouvernement. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous dans cette émission de Kinshasa. Et également de Kinshasa, Dr Charles Odiko. Bonsoir, M. Odiko. Allô, enseignant-chercheur à l'université de Kinshasa. Et nous avons également Espoir Mouyissa, qui est militant de la Lucha, lutte pour le changement, me fait signe qu'il n'est pas encore connecté avec nous. Et nous avons aussi Patrick Mboyo Bakambo, qui est auteur, juriste, chercheur en droit public et sciences politiques à l'université Paris-Saclay. Bonsoir, monsieur Bakambo.
Bonsoir.
Merci à tous d'être là. Je commence avec vous, peut-être, monsieur le ministre Katembwe. Le président Tshisekedi a donc décidé de parier sur les généraux Luboya et Dima, et il les a nommés gouverneurs militaires du Nord Kivu pour le premier et de l'Ituri pour le second. Certains ont exprimé des craintes et même des critiques en raison de leur appartenance dans le passé au groupe rebelle. Que leur répondez-vous pour les rassurer ?
Non, je crois que ça procède d'une stratégie depuis de longs mois. Lorsqu'il s'agit de parler des officiers de la République démocratique du Congo, on a tendance à aller dans cette généralisation de dire que bon voilà, il y a eu des viols. Des violeurs et tous les mauvais qualificatifs. C'est comme si, dans notre armée, on ne pouvait que généraliser sur deux cas de dérapage qui sont observables partout, premièrement. Deuxièmement, les généraux ont un passé militaire, ils ont été formés, et vous savez que depuis plusieurs mois, la République démocratique du Congo, sous la direction du président Tshisekedi, fait de la question du respect des droits humains dans l'armée une question principale. Nous ne pouvions pas, il y a quelques mois, collaborer ou avoir une coopération militaire avec le gouvernement américain, mais cette coopération a repris parce que qui mieux que les Américains veille sur les questions de droits de l'homme. Alors que nous décidons d'aller dans une opération comme celle-là, inédite dans l'histoire récente de la République démocratique du Congo, il y a tous ceux qui sont opposés ou tous ceux qui fort malheureusement pensent que la RDC doit rester cet îlot d'insécurité, veulent jeter les discrédits sur des généraux qui ont été désignés en fonction de leurs compétences, parce que il faut savoir que le général Lima était, avant sa nomination, le chef d'état-major adjoint chargé de l'administration et de la logistique, pratiquement le numéro 2 ou le numéro 3 de l'armée, et que le général Luboya était le commandant de la première zone des défenses qui couvre notamment la capitale Kinshasa et les autres provinces de l'Ouest. C'est un casting qui a été fait véritablement parce qu'il faut répondre à l'impératif de remettre la sécurité à tout prix dans cette partie du pays.
Encore un mot, monsieur le ministre Katemboué, je pense que ceux qui formulent ces critiques ne mettent pas en doute ou ne remettent pas en cause leurs compétences, mais la réalité, c'est que ces personnes ont pour l'une été membres de la rébellion du RCD, qu'on dit proche ou qu'on disait proche du Rwanda, et pour le général Dima Kongouba, qui a été nommé dans la province de l'Ituri, il a été membre de la rébellion du MLC de Jean-Pierre Bemba, présenté comme proche de l'Ouganda. Ce sont des faits.
Ben écoutez, quand vous dites proche de l'Ouganda, vous parlez de la rébellion, vous parlez des individus, parce qu'il faut regarder d'où nous venons. Il y avait des mouvements rebelles, il y a eu un processus de paix, il y a eu un mixage. Et les hommes qui travaillent sous les drapeaux n'ont des couleurs que le pays ou la République démocratique du Congo. Moi, je voudrais plutôt qu'on regarde les choses par rapport à ce qui pourra être fait dans l'avenir, parce qu'il y a eu un travail de toilettage, de tri qui a été fait en amont, et qu'aujourd'hui, le plus important, c'est de le voir à l'œuvre pour que la paix revienne.
Leur accorder le bénéfice du doute.
Revenir sur le passé des uns des autres, madame, les passés, on peut toujours trouver à redire, mais tout ce que moi je peux vous dire, c'est que ce sont des officiers patriotes, compétents et nationalistes.
Merci
et
beaucoup.
Il serait souhaitable que nous puissions les juger sur la base de leur travail.
Monsieur Odiko, vous m'entendez? Docteur Odiko? Allô? Le temps peut-être. Oui, est-ce que vous êtes convaincu par les réponses données par le ministre Katemboué sur le profil des gouverneurs nommés?
Non, je ne suis pas convaincu. Je pense que M. Katembo avait toutes les raisons de nuancer son propos. Parce que dans notre pays, parmi les problèmes qu'on reproche à l'armée, et même ce qui est vérifié dans beaucoup de pays africains, c'est que les problèmes de mixage après les rébellions et autres ne permettent pas réellement une cohésion au sein de l'armée et que très souvent, il y a des cas de trahison. Donc, s'il y a des Congolais qui émettent des doutes par rapport à nos frères qui sont nommés ou désignés comme gouverneurs dans ces régions, ce que M. Katembo pouvait dire, c'est tout simplement nous exhorter, comme le chef de l'État, à faire confiance et en croire à leur bonne foi et à leur conversion. Parce qu'il y a quelques temps, nous avons connu un certain général qui était venu du MLC, qui nous a aidé à mater, je crois, la rébellion contre M23. C'était le général. On avait un général célèbre qui est venu du côté du MLC. C'était quelqu'un de l'Équateur. Donc ici, on ne peut pas, aujourd'hui, parce que c'est le président qui a nommé, ou c'est qui, il a nommé des saints. Comme on ne les connaît pas, on ne les maîtrise pas trop, on ne connaît pas sa conscience, leur conscience plutôt, il faut qu'on accepte, qu'on dise, mais il pouvait dire, voilà, c'est vrai qu'on peut bien maîtriser leur passé militaire, mais le chef de l'État veut travailler avec tous les Congolais et qu'à ce titre, il compte sur leur bonne foi. En disant ça, nous serions quand même quelque peu encouragés. Mais considéré aujourd'hui comme tout celui qui émet des critiques doit être considéré comme quelqu'un qui n'aime pas le pays, qui n'aime pas le Congo, moi je pense que ça serait une erreur monumentale et
merci.
Une erreur d'appréciation de la part du ministre Katembo.
Monsieur Patrick Mboyo, vous aussi, vous pensez qu'il ne faudrait pas surtout donner un chèque en blanc à ces deux gouverneurs militaires au regard de leur passé qui inquiète certains de vos compatriotes?
Je dirais plutôt qu'il faudrait s'en méfier. Parce que la réalité, c'est que le porte-parole du gouvernement de la RDC n'arrive pas à dire clairement, c'est que le gouvernement gouvernement congolais n'a pas choisi les bonnes personnes. Le président n'a pas choisi les bonnes personnes qui peuvent gérer la situation. Parce que ces personnes, déjà comme vous le disiez à juste titre, ont été impliquées dans des mouvements de rébellion. Et il y a quelques semaines déjà, on l'évoquait à votre antenne, à chaque fois qu'au niveau de la RDC, il y a des jeunes gens ou des populations autochtones qui arrivent à exprimer leur ras-le-bol, voire à vouloir se prendre en charge de pour assurer leur sécurité, le gouvernement leur tombe dessus. Qu'est-ce qui se cache derrière cette question d'état de siège? En réalité, c'est une intention simple du gouvernement, de la présidence de Félix Tshisekedi, de vouloir reprendre en main le contrôle, de calmer un peu les esprits des civils en réalité. Parce que dans son discours, message adressé à la nation conformément à l'article 85 de la Constitution, lorsqu'il proclame l'état de siège, il ne démontre pas quelles sont les missions précises qui sont données aux animateurs de cet état d'urgence. Puisque l'état d'urgence peut être proclamé sur le territoire national ou sur une partie de l'état, d'après la loi, ce qu'elle prévoit. Mais pourquoi simplement sur deux provinces? Ça, il ne l'a pas expliqué. En quoi la situation aujourd'hui diffère-t-elle de la situation d'hier, en 2020 ou en 2019? Parce qu'entre décembre 2019 et aujourd'hui, on compte plus de 1000 personnes qui sont mortes dans la région de Beni, du Nord Kivu et tout le secteur de l'Est qui est concerné. Mais pourquoi seulement aujourd'hui doit-on passer à un état d'urgence? Et pourquoi ces personnes-là? On avait évoqué tout à l'heure, nous avons...
Excusez-moi, Monsieur Mboyo, ces personnes, malgré leur passé que vous relevez, ne sont-elles pas congolaises?
Ce sont des Congolais, bien entendu.
Et la rébellion à laquelle ils ont appartenu, à un moment donné, relève peut-être du passé.
Ça relève du passé, mais pas d'un passé si lointain que ça. Puisque ces deux généraux que vous avez cités ont été encore du côté de la rébellion lorsque le général Mbunza Mabé attaquait Laurent Kunda Batware ainsi que Jules Moutéboussi en 2003 pour les chasser de la ville de Bukavu. Ils étaient encore, je pense, en tout cas, sauf de ma part, du côté de la rébellion lorsque Mamadou Ndala attaquait bravement les forces de la ZADF Nalu pour les chasser de la région de Beni. Mamadou Ndala avec une seule bataillon, Mbunza Mabé avec une seule bataillon, ont réussi à déjouer des groupes armés dans l'est du Congo. Pourquoi un état d'urgence pour que l'armée se mobilise pour aller attaquer les mêmes groupes armés qui n'ont pas changé, qui n'ont pas eu d'autres méthodes, d'autres soutiens, qui sont les mêmes avec les mêmes moyens? Pourquoi seulement maintenant? C'est là Merci. Où le bât blesse. Moi, je pense qu'on devrait encore beaucoup plus expliquer la population et surtout la présence de ces généraux à la tête de ces provinces en état d'urgence ne rassure pas du tout la population ni le respect des droits de l'homme.
Merci beaucoup. On va vous retrouver dans un instant notre invité, Espoir Mouissa de la Lucha. On l'espère pouvoir l'entendre juste après cette courte pause.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Dans le grand rendez-vous ce soir, débat sur la RDC où le président Tshisekedi vient de nommer deux gouverneurs militaires dans la province de Nord Kivu, mais aussi celle de l'Ituri. Et nous en parlons avec quatre invités, Patrick Muyaya Katembwe, ministre porte-parole du gouvernement congolais, Dr Charles Odiko, enseignant à l'université de Kinshasa, Patrick Mboyo Bakambo, auteur, juriste et chercheur en droit public et sciences politiques à l'Université Paris-Saclay, ici en France, et Espoir Mouissa, militant de la Lucha, lutte pour le changement, que nous avons retrouvé. Alors, Monsieur Mouissa, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Vous êtes à Butembo et concerné évidemment par cet état de siège. En quelques mots, comment est-ce que les populations de Butembo ont accueilli la nomination de ces deux gouverneurs militaires?
Ici à Butembo, d'abord cette question, elle a été accueillie d'abord comme étant une mesure à partir de laquelle le président de la République veut apporter la paix. Néanmoins, il se pose un souci lorsque on donne autant de pouvoir aux militaires, parce que nous, déjà dans cette région, nous assistons à beaucoup de violations des droits humains, simplement parce que le militaire pense avoir un pouvoir au-delà de celui des civils. Maintenant, lorsque on donne autant de responsabilités aux militaires, ça inquiète un tout petit peu. Bien sûr, la population a soif de voir cette guerre finir, mais elle est aussi inquiétée par le fait que cette mesure donne autant de pouvoir aux militaires.
Et il faut dire que le pouvoir des responsables civils a été mis entre parenthèses. Donc, pour vous, la question du profil de ces deux militaires ne vous inquiète pas ?
Bon, vous savez, d'abord, pour nous autres qui habitons cette région, vous allez comprendre que nos relations avec les militaires ne sont pas vraiment au bon fixe comme on pouvait le penser. Moi, personnellement, qui se trouve à Butembo, je pense qu'il y a des témoignages qui vous arrivent de part et d'autre par rapport aux victimes de ces atrocités vécues du jour au lendemain. Nous pensons personnellement que la mesure, si elle pouvait être appréciée dans son fond, en tout cas, elle pouvait être salvatrice pour le peuple congolais. Mais dans la mesure,
allô,
plus dans la forme que dans les fonds, ça nous inquiète. Allô, me captez?
Oui, oui, allez-y.
J'étais en train de dire que personnellement, nous ici, à l'est de la République démocratique du Congo, et beaucoup plus dans la région où se passent toutes ces atrocités, le fait d'avoir les militaires à la tête de la province, ça nous inquiète dans le sens où l'ordonnance leur donne autant de pouvoirs qui mettent en danger même la liberté des civils qui sont victimes même de cette situation de guerre.
Merci, monsieur.
Vous imaginez ?
Oui, vous avez déjà dit que votre préoccupation, c'est de possibles violations des droits de l'homme. Donc, le problème sur le passé rebelle de ces responsables militaires ne se pose pas pour vous. Je vais me retourner vers le ministre Katembwe encore. Monsieur le ministre, je vais citer très brièvement, je vais essayer, un député national élu de Goma, en l'occurrence Jean-Baptiste Mouindo, qui affirme que cet état de siège est un faux remède et que le diagnostic qui vous a été présenté, en tout cas présenté aux autorités, n'a pas pris en compte la réalité. Il estime que l'échec de la lutte contre l'insécurité dans ces provinces de l'Est de la RDC est dû notamment à plusieurs facteurs, dont la complicité, selon lui, de certains militaires dans des économies criminelles. Il parle aussi de la complicité entre certains officiers des FRDC et des groupes armés, ou encore du détournement des fonds alloués aux opérations militaires. Comment appréciez-vous cette déclaration faite par un élu d'une des provinces concernées ?
D'abord, madame, je crois qu'il faut que vous puissiez bien spécifier l'objet de l'émission. Est-ce que nous débattons sur les conditions pour le retour de la paix dans ces provinces ou est-ce que nous débattons sur le choix des généraux qui ont été choisis ? Il faut bien spécifier.
Nous avons fini la partie des généraux, monsieur le ministre. Nous sommes sortis là. Maintenant, on parle. Nous parlons maintenant de.
Oui. Et puis, je crois que tout à l'heure, vous disiez, parce que nous sommes dans la même trame, dans la même émission. Ce n'est pas l'état de siège qui est liberticide pour nos populations de cette partie du pays. C'est l'insécurité qui est liberticide et personne ne peut nous contredire quant à ce. Pour ce que le collègue député a dit, vous savez, ça fait 20 ans qu'on est en opération dans l'est du pays. On a presque tout essayé et ça n'a pas donné les résultats escomptés parce que c'est des millions de morts, c'est des milliers de morts. Vous avez suivi ce qu'a dit le compatriote Moïse tout à l'heure. Aujourd'hui, nous passons par une solution radicale qui est temporaire, parce que l'état d'urgence, l'état de siège plutôt, et non pas l'état d'urgence comme l'autre côté.
Effectivement, c'est l'état de siège qui va durer 30 jours.
L'état de siège, oui, qui dure 30 jours. Vous voyez que c'est temporaire et c'est limité dans le temps. Et durant cet état de siège, qu'on ne vous trompe pas, madame, l'ordonnance qui le fixe est claire. En aucun cas, il ne sera dérogé aux droits et principes fondamentaux SIA. Le droit à la vie, l'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels inhumains, l'interdiction de l'esclavage et de la servitude, les principes de la légalité des infractions et des peines, les droits de la défense et les droits des recours, l'interdiction de l'emprisonnement pour dette, la liberté des pensées, de conscience et des religions. Vous voyez que ce n'est pas une situation où on va brimer les libertés, au contraire.
Quand vous balayez toutes les craintes relatives aux éventuelles violations des droits de l'homme, est-ce que cela signifie que si un des responsables militaires viole les droits de l'homme et les libertés, il pourrait être poursuivi ?
Mais bien sûr, bien évidemment, et d'ailleurs, pour cette fois, la loi sera encore plus dure, parce que c'est que les gens, les uns les autres ont comme crainte. Mais c'est des craintes qui sont fondées, mais toute opération a un risque. Je crois que le risque qui a été pris par le gouvernement est encore plus grand que toutes ces craintes-là, parce qu'ici, on ne peut pas continuellement laisser ces provinces être décimées de cette manière. On ne peut pas compromettre l'avenir de nos enfants là-bas et laisser nos femmes être violées sans essayer ces régimes qui est prévu par la Constitution. Parce que l'état de siège, c'est quelque chose, c'est une recommandation constitutionnelle au cas où l'intégrité du territorial est menacée. En l'occurrence, nous considérons que la persistance de troubles dans l'Ituri et dans les Nord Kivu en est une cause qui peut justifier. Et il ne faut pas oublier qu'il y aura une cour militaire opérationnelle durant cette opération et que tous les militaires qui tomberont sous les régimes des violations de droits de l'homme seront sévèrement sanctionnés. Je crois qu'il y a certainement des soupçons qui sont fondés, il y a sûrement de craintes, mais ici, il ne faut pas douter de la volonté politique première de ramener la paix et de sanctionner tous ceux qui veulent contrevenir au retour de la paix en violant les droits de l'homme et en malmenant la population.
Docteur Charles Odiko. Allô? Oui, docteur Charles Odiko. Oui, qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous pour mettre en œuvre cet état de siège pour que, à l'heure du bilan, dans un mois, on assiste peut-être à une amélioration de la situation sécuritaire dans les deux provinces concernées?
Bon, je voudrais avant tout amener quelques précisions, parce que le ministre a semblé affirmer que l'état de siège n'est pas liberticide. Je lui dis que l'état de siège est un état liberticide. Les libertés qu'il a énumérées, les 6 libertés ou droits fondamentaux qui continuent, auxquels on ne peut pas déroger, on appelle ça les noyaux durs, c'est-à-dire les droits auxquels on ne peut pas déroger, quelles que soient les circonstances, état d'urgence ou quoi. C'est-à-dire que d'autres libertés, par exemple, pendant l'état d'urgence de siège, il y a la perquisition qui viole d'autres libertés, par exemple le droit à la vie privée, beaucoup de droits à la liberté de manifestation, il y a beaucoup de libertés qui ne peuvent pas s'exercer dans ce contexte.
Qu'est-ce que vous voulez dire, docteur Odiko, qu'on va forcément assister à des violations des droits de l'homme pendant cette période?
Non, mais ici, la violation qu'il y a maintenant, c'est une violation légitime, c'est une violation légale, parce que certains droits et libertés fondamentaux sont mis en veilleuse pour poursuivre l'intérêt supérieur qui est la sécurité. Parce que lorsque nous sommes dans les contextes où nous participons à des morts d'hommes et consorts, il est mieux, par exemple, entre la liberté des manifestations ou d'autres libertés, on peut privilégier par exemple la liberté fondamentale qui est le droit à la vie. Parce que dans le contexte de l'Est, c'est généralement le plus grand, c'est le plus fondamental qui est menacé, notamment le droit à la vie. Alors dans ce contexte, il y a des principes juridiques qui acceptent qu'on mette en quelque sorte en veilleuse certains droits et libertés fondamentaux des citoyens.
Ceci dit, docteur Odiko, le temps s'égrène. Alors, ceci dit, comment est-ce qu'il faut faire pour que on puisse mettre en œuvre de la façon la meilleure possible cet état de siège?
Bon, au fait, pour moi, je ne sais pas, parce que les questions sont venues telles. Moi, je suis juriste, c'est l'approche juridique qui devait m'intéresser. Au fait, moi, j'ai considéré que l'état de siège, l'analyse de la situation qui nous conduit à la déclaration de l'état de siège n'a pas été très objective, parce qu'il y a trop de subjectivité. C'est comme un co-débatteur qui intervient à partir de France a dit, on a pris cette mesure en quelque sorte sensationnelle, populiste, pour calmer la colère des habitants de l'Est. Mais je pense, comme nous tous, nous voulons la paix au pays, je crois qu'au fur et à mesure que la situation pourra évoluer, que peut-être la magie peut à l'entretemps intervenir pour que nous puissions découvrir la paix.
Merci.
Mais je crois que, vous savez, depuis l'époque de Kabila, le président Tshisekedi lui-même, ils ont reconnu qu'il s'agit d'une situation asymétrique. Donc les modalités opératoires des groupes d'armées, voire des terroristes, ne sont pas bien maîtrisées, à tel point que lorsque nous amenons une armée pour qui va utiliser des moyens conventionnelle, ça risque de poser des problèmes.
Merci, moi, docteur Odiko. Merci, docteur Odiko. On va écouter Monsieur Mboyo. En quelques mots, Monsieur Mboyo, docteur Odiko semble dire que la décision même d'instaurer un état de siège est une mauvaise décision. N'empêche, elle est là. Comment faire en sorte que, au final, elle puisse, cet état de siège puisse être bien mis en œuvre et peut-être conduire à une amélioration, je le disais, de la situation sécuritaire?
Je partage justement le point de vue de mon collègue de l'Université de Kinshasa, dans le sens où les modalités de mise en œuvre ne sont pas clairement définies. Premièrement, les missions précises de cet état de siège, quoi qu'il en soit, de 30 jours, ne sont pas clairement définir le message donné par le président. Deuxièmement, en ce qui concerne les modalités de fonctionnement ou de collaboration avec les instances locales, n'oublions pas qu'il y a eu des élections au suffrage.
Monsieur Mboyo, excusez-moi, la critique, vous les avez formulées quand vous avez donné la parole tout à l'heure sur l'état de siège, c'est une mauvaise décision. Les personnes qui sont chargées de l'appliquer, les deux gouverneurs, sont problématiques. Alors maintenant, quels sont les réajustements qu'il va peut-être falloir faire pour qu'on obtienne les résultats escomptés, l'amélioration de la situation de sécurité des populations meurtries?
Oui, je dépasse justement l'aspect où on parlait des animateurs. Nous sommes maintenant dans la mise en œuvre concrètement. C'est pour ça que je rappelle qu'il y a eu des élections qui ont permis d'avoir une assemblée provinciale et un gouverneur. Au moment où nous parlons, avec l'ordonnance qui entre en vigueur, l'assemblée provinciale ne fonctionne plus. Ses compétences sont suspendues. Le gouverneur n'a plus de fonction en réalité à proprement parler. Or, ce sont des personnes qui connaissent en réalité la vie des populations et quelles sont les réalités auxquelles les populations sont confrontées. Avec une administration militaire, pour aller justement dans l'objectif de remettre la paix, la mission des militaires ne devrait pas être en plus de pouvoir s'occuper de la vie de la population à partir du moment où cette population déjà est meurtrie et a des difficultés au plan économique. N'oublions pas que ce sont des régions très pauvres.
Votre suggestion serait qu'on implique les autorités locales, administratives locales, à la recherche de la solution ou à la mise en œuvre de cet état de siège?
Exactement. Les autorités locales ne devraient pas être des supplétifs, en réalité, des militaires. Les autorités locales devraient continuer à exercer, à fonctionner. Parce qu'en réalité, n'oublions pas, l'objectif premier reste la pacification de cette partie de l'Est de la République démocratique du Congo, en Ituri et dans le Nord Kivu. À partir de ce moment-là, toute administration qui viendrait dans les 30 jours ne saurait pas déjà prendre connaissance des réalités, des dossiers brûlants dans les 30 jours et pouvoir les traiter. Donc mettre à l'écart l'administration civile qui exerce déjà depuis plusieurs années, depuis des lustres, pour une parenthèse des 30 jours à laisser aux militaires de décider de la vie courante, de la vie commune de la population, c'est vraiment, jouer avec la vie des populations et manquer de pertinence et de leadership dans le sens de résoudre la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, qui n'est pas seulement sécuritaire, mais qui est aussi économique, social et au plan sanitaire, avec notamment la crise liée à la Covid-19. Et ça, le porte-parole du gouvernement oublie souvent de le dire et ne précise pas que l'état d'urgence et l'état de siège sont prévus par un même article de la Constitution. On reste dans l'état de siège, bien entendu.
Merci, Monsieur Patrick Mboyo. Je propose qu'on écoute, juste après cette courte pause, Espoir Mouissa. Rassurez-vous, Espoir, vous aurez un temps de parole suffisamment important pour vous exprimer sur cet état de siège qui concerne deux provinces de l'Est de la RDC. Et on se trouve dans un instant.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Question ce soir en RDC, s'achemine-t-on définitivement vers la fin de l'insécurité dans l'est du pays après la nomination de deux gouverneurs militaires dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri pour ramener la sécurité? Nous en parlons avec Patrick Mboyo Bokambo, chercheur en droit public et sciences politiques, Espoir Mouissa, militant de la Lucha, Dr Charles Oudiko, enseignant-chercheur à l'Université de Kinshasa, et Patrick Mouyaya Katembwe, ministre porte-parole du gouvernement congolais. Espoir Mouissa, vous avez écouté les assurances tout à l'heure hein, du porte-parole du gouvernement sur la liberté et la protection des libertés des populations. Il a assuré que les militaires qui se rendraient coupables de ces violations seront poursuivis. Est-ce que cela veut dire que vous avez maintenant confiance, pleinement confiance aux autorités militaires qui sont sur place pour ramener la sécurité dans votre province?
Merci madame pour la parole. Je pense que dans un pays où il n'y a presque plus de paroles d'honneur, il y a des questions à se poser, malgré ce que le ministre que nous respectons beaucoup vient de nous donner comme assurance. Vous voyez, madame, le contexte de la République démocratique du Congo est différent sur le radio que sur ce qui se vit sur le terrain. Vous voyez, lorsque on nous parle des garanties qui ont été données, moi, je reviens sur la situation que nous vivons au quotidien. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il n'y a pas une semaine qu'il y avait de manifestations qui ont été organisées dans la région de Beni pour réclamer la paix en République démocratique du Congo et plus précisément dans la région de Beni. Même les petits-enfants, les élèves ont pris l'initiative d'aller passer des jours et des nuits à la mairie. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? C'est que le militaire, au moment où nous n'étions même pas dans un état de siège, où certaines libertés sont restreintes, on nous a imposé une force. Vous imaginez, on a pris les élèves qu'on a tabassés et qu'on a envoyés en prison. Je dis bien en prison, même pas au cachot, en prison. Et donc, c'est bien bon que le ministre nous parle des garanties. Moi, j'aime bien. Dans notre pays, nous avons beaucoup de lois, nous avons beaucoup peut-être de connaissances sur ce qui s'apparente aux garanties. Mais la réalité que nous vivons nous laisse croire qu'il y a encore du travail à faire.
Voulais profiter vous même restez, de cette vous restez dans votre crainte de ce que les droits de l'homme peuvent être violés. Mais qu'est-ce que vous attendez de cet état de siège? Qu'est-ce que vous en espérez au bout de 30 jours?
Au bout de 30 jours, je pense qu'avant même de dire ce que j'espère, au bout de 30 jours, il est très important de demander au gouvernement qu'il prenne conscience en fait de tout ce que ceci peut apporter comme conséquence s'il n'y a pas vraiment une bonne analyse de fond de cette question. En fait, pour les 30 jours, d'abord, nous sommes optimistes. Nous sommes optimistes parce que nous donnons la chance au président de la République qui a essayé d'imaginer quelque chose pour arriver à ramener la paix. Mais j'attire un peu l'attention de nos autorités parce que cette mesure qui vient d'être lancée, que nous appelons état de siège, a pour normalement objectif de mettre fin à cette insécurité. S'il s'avère que dans les 30 jours, on constate que rien n'est fait en termes d'apport sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, allez-y comprendre que la population risque de penser que cette mesure a été prise pour s'attaquer aux conséquences de cette guerre et non une mesure qui a été prise sur base d'une analyse profonde liée aux causes même de cette Merci. Guerre. Parce que parlant même des conséquences de cette situation, je suis en train de me dire, est-ce que cette mesure n'est pas une réponse à toutes les revendications qui commençaient à prendre de l'ampleur à l'est de la République démocratique du Congo, où il y a même les membres de la communauté qui commençaient à réclamer même le départ de la MONUSCO parce qu'il n'y avait vraiment pas des Merci. Efforts fournis qui pouvaient apporter des fruits.
Merci donc, beaucoup, moi, M. Mouissa. Donc, M. le ministre, peut-être, il semble dire que peut-être l'opération a été mal préparée, mais en tout cas, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, vraiment en une minute, quels sont les objectifs que vous attendez de cet état de siège d'ici 30 jours?
En un mot, l'objectif est simple, c'est le retour à la paix. C'est le retour à la paix. Il vaut mieux perdre un peu de liberté, mais être en sécurité, que vivre en liberté, en totale insécurité. C'est que le compatriote Moïse a dit tout à l'heure, fonde beaucoup et pour beaucoup dans la décision qui a été faite, il y a des mesures opérationnelles supplémentaires qui vont être prises, qui sont bien coulées dans l'ordonnance du président de la République. Je vous ferai l'économie de ce qui a été dit. Le mandat est bien circonscrit et nous tous, nous sommes optimistes. Nous espérons que la population va collaborer parce que c'est la population qui peut aider à mettre fin à l'insécurité particulièrement.
Mais il semble bien à entendre les uns et les autres qu'un travail de pédagogie est indispensable pour faire accepter cet état de siège et les personnes, les deux gouverneurs chargés de sa mise en œuvre.
C'est une situation exceptionnelle, la réponse exceptionnelle. Moi, particulièrement hier, j'ai fait une grosse conférence de presse avec les porte-paroles de l'armée et de la police. Vous avez raison, nous allons faire un peu des pédagogies et nous voyons comment travailler avec les relais, la société civile dans les provinces concernées pour que d'abord ils sachent que nous sommes solidaires de ce qui arrive et que nous allons trouver des mécanismes pour qu'ils aient confiance aux militaires qui ont été envoyés, qui collaborent pour qu'ensemble nous puissions travailler au retour de la paix.
Merci. En une minute, monsieur docteur Odiko, vous faites confiance malgré tout, vous avez espoir que cet état de siège va aboutir à quelque chose?
J'ai espoir, je ne sais pas dire si j'ai espoir ou pas, mais je donne tout simplement la chance parce qu'on a dit qu'en tant que citoyen nationaliste, comme je l'ai dit l'autre fois, je ne peux vouloir que le bien du pays tout en restant quelque peu dubitatif par rapport aux moyens mis en œuvre pour y arriver. Donc, je le veux
bien. On parlait justement de faiblesse des effectifs et des moyens donnés à l'armée, au FRDC, au regard de l'ampleur des tâches à accomplir.
Effectivement.
Monsieur Boyo,
un peu attristé de constater qu'on sort de ce débat sans connaître les objectifs précis de cet état de siège dans les 30
Pardon, jours. Le ministre Katembwe l'a dit en un mot que c'était pour ramener la sécurité dans l'est de la RDC.
C'est une mission courante de toute autorité nationale, militaire, dans n'importe quel pays dans le monde. Assurer la paix et la sécurité de ses constitués, de ses administrés, c'est quelque chose de plus banal qu'on peut retrouver n'importe où. Bon, bref, je ne m'attendais pas à plus dans ce débat, malheureusement. Cela étant, on doit comprendre que la vie des Congolais n'a
pas... Excusez-moi, monsieur Boyo, si j'ai bien compris, vous dites que cet état de siège est parti pour n'apporter aucune amélioration de la situation de sécurité dans ces provinces. C'est mal parti.
Aucune amélioration, parce qu'en réalité, seul celui qui tient une comptabilité sait s'il s'enrichit ou s'appauvrit. La comptabilité est tenue par rapport à des objectifs, à des éléments quantifiés et chiffrables. On ne nous a pas dit quels sont les objectifs précis. Dans combien de temps on doit avoir la paix? Combien de nombres de morts on doit éviter? Quels sont les mouvements rebelles? Il y a 122 mouvements armés dans cette partie du pays. Combien on compte en éradiquer au bout des 30 jours? Quel est le bilan auquel on doit s'attendre au bout des 30 jours? Personne ne l'a retenu dans ces débats parce que personne n'a la réponse à apporter. C'est le flou, le manque de leadership du gouvernement, à commencer par le président lui-même qui est à la tête de cette situation. Et ça n'avance pas.
Merci.
Le Congo mérite mieux et nous devons assurer le bien-être des Congolais partout où nous sommes en apportant des idées et des contributions concrètes à la solution du problème de l'est de la République démocratique.
Patrick Mboyo Bokambo, chercheur en droit public et sciences politiques à l'Université Paris-Saclay, Espoir Mouissa, militant de la Lucha à Boutembo, Dr Charles Odiko, enseignant-chercheur à l'Université de Kinshasa et le ministre porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Mouyaya Katembwe. Merci beaucoup à vous tous pour votre participation à ce débat sur Africa Radio.